L'appel de la ruche.
Cette émission est proposée par Florence, du Rucher des Ânes, et Virginie, au secret des abeilles. Bonjour à tous. Bonjour Virginie.
Bonjour à tous et à toutes. Salut Florence.
On est très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'Appel de la Ruche. Aujourd'hui, avec Virginie, des Secrets des Abeilles.
Et Florence, du Rucher des Ânes.
Nous allons vous parler du miel, ou plutôt des différentes sortes de miel et de leur texture. Lors de l'émission précédente, nous avons déjà parlé des abeilles, de leur vie sociale au sein de la colonie et des différents métiers de l'abeille au cours de sa vie. Le miel est la base de l'alimentation de la colonie, avec le pollen. Dans cette émission, nous allons donc revenir plus précisément sur les butineuses. Ce sont elles qui vont chercher le nectar et le pollen dans les fleurs. Juste pour rappel, le pollen, c'est cette poudre jaune ou orangée, en général, qui est l'ensemble des graines des fleurs. Le nectar est le liquide au cœur de la fleur. Pour le pollen, nous y reviendrons dans une prochaine émission sur les produits dérivés de la ruche et leur utilisation.
Du coup, Florence, peux-tu nous donner plus de détails sur le nectar ?
Le nectar est un liquide sucré que produit la fleur pour attirer des insectes. Les plantes, pour se reproduire, ont su évoluer pour attirer les insectes pollinisateurs. Elles ont donc créé le nectar afin de faire venir les insectes qui vont et viennent au cœur des fleurs. C'est tout simplement un échange de bons procédés. Je te donne de la nourriture et tu m'aides à me reproduire. Une fois posée sur une plante à fleurs, l'abeille en écarte les pétales, plonge sa tête à l'intérieur, allonge sa langue et aspire le nectar qu'elle stocke provisoirement dans son jabot. C'est une petite poche qui se trouve dans son estomac. Le nectar qui a été récolté est ramené à la ruche. L'abeille, la butineuse, va confier sa récolte des nectars à la première abeille qu'elle va croiser en rentrant. Cette même abeille va le mélanger avec sa salive et le confier à une autre, et ainsi de suite. Ce nectar passera de bouche en bouche jusqu'à trouver une abeille magasinière qui finira de fabriquer le miel en le stockant dans une alvéole.
Pourquoi cet échange de bouche en bouche ?
Le nectar, pour qu'il puisse se transformer en miel, a besoin des enzymes contenues dans la salive des abeilles. Ce passage de bouche en bouche s'appelle la trophallaxie. Quand la magasinière récupère ce mélange nectar-salive, elle va encore devoir le travailler pendant plusieurs jours. Elle le dépose dans une alvéole, puis va ingurgiter, puis régurgiter ce mélange de très nombreuses fois. Mais ça ne suffira pas, il va falloir en plus le déshydrater. Et pour cela, notre petite abeille est très bien pourvue. Ses petites ailes vont lui permettre de ventiler le nectar pour le transformer en miel. Pour vous aider à comprendre, le nectar est composé à 94% d'eau, alors que le miel, lui, ne doit surtout pas dépasser les 18% d'humidité. Une fois le travail terminé, et le miel au bon taux d'humidité, la magasinière va fabriquer un couvercle en cire pour fermer l'alvéole et protéger le miel. On appelle ça l'opercule. Maintenant que le miel est prêt, à votre avis, combien de temps va-t-il pouvoir se conserver ?
Eh bien, le miel se conserve à vie. Pour tout vous dire, des archéologues ont même retrouvé dans les pyramides en Égypte des pots en argile contenant du miel datant de plus de 2500 ans. Et ce miel est toujours comestible. Mais sa conservation hors norme n'est pas sa seule propriété. On lui attribue aussi beaucoup de bienfaits. Il est antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant. C'est aussi un allié précieux pour le corps. Il favorise la capacité de rétention du magnésium et du calcium, améliore le taux d'hémoglobine dans le sang et est utilisé en préparation dans les hôpitaux pour des soins au grand brûlé pour ses vertus cicatrisantes. Un bonbon au miel, il permet de soulager les maux de gorge.
Vraiment, le miel, c'est génial. Mais dis-moi, Virginie, comment fait-on du miel de lavande, romarin, tilleul ? En fait, comment on fait pour faire du miel spécifique d'une plante ?
C'est une bonne question. Tout d'abord, nous avons des miels dits monofloraux et d'autres dits toutes fleurs. Les monofloraux ne sont pas uniquement constitués du nectar d'une seule et unique plante. Nous sommes d'accord que l'abeille va aller butiner différentes fleurs pour son équilibre alimentaire. Donc, lorsque l'on dit qu'un miel est de lavande, c'est qu'il y a plus de 80% de nectar de lavande à l'intérieur.
Ma spécialité, c'est le miel toute fleur. Mais la tienne, c'est le monofloral. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ?
Eh bien, c'est assez simple. Tout d'abord, je dois repérer des zones dites mellifères, c'est-à-dire des endroits où je peux déposer mes ruches afin de récolter du miel. Si je veux faire du miel de tournesol, par exemple, je vais placer mes ruches à proximité d'un champ de tournesol, juste avant la floraison de celui-ci. Et je retirerai les cadres bien remplis dès la fin de la floraison. Si je mets mes ruches en montagne, je ferai du miel de rhododendron, de bruyère. Mais dis-moi, Florence, maintenant que l'on a compris comment on fait des miels monofloraux, peux-tu nous donner les bienfaits spécifiques de certains de ces miels ?
Oui, bien sûr, Virginie. Le miel d'acacia a un effet régulateur du système intestinal. Quant au miel de colza, il apporte beaucoup de calcium et de bore. Le miel de lavande, lui, est beaucoup employé dans les cosmétiques. Le tilleul apporte du potassium, du magnésium et du manganèse. Le pissenlit, lui, a des vertus diurétiques. Mais ceci ne sont que quelques exemples. Toutes les plantes ont leurs bienfaits et il serait trop long de tout vous raconter dans une émission. Moi, je fais du toute fleur pour avoir un mélange des propriétés de toutes les fleurs que les abeilles butinent.
Parle-nous du miella aussi. Tu peux nous expliquer ce que c'est ?
C'est vrai, il est intéressant d'en parler également, car les butineuses peuvent produire du miel avec une autre matière première que le nectar. Elles peuvent aussi récolter du miella. C'est un liquide épais et visqueux, excrété par des insectes piqueurs, suceurs, pucerons, cochenilles, membracidae et autres, à partir de la sève des arbres. Il sera utilisé de la même façon que le nectar de fleurs. C'est ce produit qui est notamment utilisé pour élaborer le miel de sapin.
Florence, on me pose souvent des questions sur la cristallisation. Est-ce que cela altère le miel ou est-ce un signe de mauvaise qualité ? Tu peux nous expliquer ce phénomène ?
Le miel, liquide à l'extraction, est une solution saturée en sucre. Et comme toute solution saturée, il cristallise plus ou moins rapidement en fonction de l'équilibre de ses sucres principaux, fructose et glucose, et de son niveau de viscosité. Plus la teneur en fructose est élevée, plus il restera liquide longtemps. Par exemple, le miel d'acacia. Plus la teneur en glucose est élevée, plus il cristallise vite. Par exemple, le miel de colza ou le miel de trèfle. Cet équilibre des sucres dépend de son origine florale, mais n'a pas de lien direct avec sa qualité. Si un miel est chauffé à plus de 40 degrés, sa cristallisation est retardée. Mais attention, chauffer un miel à une température supérieure à 40 degrés lui fait perdre en qualité et vous perdrez certains bienfaits de celui-ci. Maintenant, le miel est stocké dans les alvéoles. Virginie, comment fais-tu pour récupérer tout ce miel ?
Alors, reprenons d'abord la structure de la ruche. Le corps de la ruche, c'est l'entrée de celle-ci, où vit la colonie autour de la reine. Au début de la saison, je pose un étage sur ce corps de ruche, que l'on appelle une osse, et c'est là que la colonie va stocker le miel. Afin de ne pas avoir de ponte dans mes osses, je pose une grille à reine. Celle-ci empêchera la reine de monter. Selon l'endroit où j'ai placé mes ruches, et lorsque la floraison est terminée, il n'y a plus qu'à récupérer les osses et à les ramener à la miellerie. Une fois le miel arrivé à la miellerie, je teste avec un réfractomètre. Cet outil me permet de savoir le taux d'humidité de mon miel. Ensuite, j'utilise la technique du miel pressé. Grâce à un pressoir à miel, je vais donc extraire le miel des alvéoles. Il suffit simplement de découper les cadres de mes osses et ensuite de les mettre dans le pressoir. Grâce à une vis sans fin, le miel est extrait des alvéoles. Ensuite, celui-ci est filtré et mis dans un maturateur. C'est une sorte de bidon en inox qui permet de faire remonter les impuretés pendant quelques jours afin d'avoir un miel propre. Après quelques jours, viendra le temps de la mise en pot. Et toi, Florence, quelle méthode utilises-tu pour extraire ton miel ?
Eh bien, moi, j'utilise une autre technique, en effet. Il s'agit d'un extracteur rotatif. Je fais comme toi, je vais récupérer mes osses, je prends mes cadres, je vais désoperculer toute la surface des cadres, d'un côté et de l'autre, hein, puisque les cadres sont construits des deux côtés. Puis, je vais installer les cadres dans une cuve avec une centrifugeuse. Quand la rotation est lancée, le miel est projeté sur les parois de la cuve et glisse doucement au fond de celle-ci. À la sortie, le miel est filtré, puis comme toi, je le laisse se reposer quelques jours au maturateur, avant de le mettre en pot.
Pour toi, Florence, comme pour moi, la saison est terminée et les récoltes sont faites. Il ne nous reste plus qu'à préparer nos ruches à l'hiver.
Cette émission spéciale miel est maintenant terminée. Mais, chers auditeurs, si vous avez des questions sur le miel ou sur les abeilles, envoyez-nous un mail sur contact@radiogalaxie31.com et nous vous répondrons. Retrouvez cette émission et la précédente sur le site internet radiogalaxie31.com. À très bientôt.
À bientôt. Radio Galaxy 90.8.